Voilà, bonjour à tout le monde. Enfin, l'instruction qui sera faite aujourd'hui, en fait, est le début d'une série qui tourne autour de l'éducation. Donc, en fait, il ne s'agit pas du tout d'épuiser aujourd'hui le sujet de l'éducation, pas du tout. Il s'agit de le commencer et ensuite nous aborderons certains aspects de l'éducation successivement. Par exemple, la fois prochaine, ce sera l'autorité. Nous aborderons le problème de l'autorité. Enfin, ce n'est pas un problème d'ailleurs. C'est une question, la question d'autorité. Et ainsi, nous verrons d'autres sujets, tous relatifs à l'éducation. Et aujourd'hui, donc, le but, c'est de voir un petit peu l'éducation en général. Alors, évidemment, quand on entend parler de l'éducation, quand on vient écouter une instruction sur l'éducation, on s'attend toujours à des choses concrètes. On veut du concret, pas de tant de théorie, pas de grande généralité. Alors, aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de choses concrètes. Alors, donc, vous êtes déçus, sans aucun doute, mais je vous demande de bien vouloir rester quand même. Il n'y aura pas beaucoup de choses concrètes, puisque ce sont des généralités. Bon, enfin, on en mettra un petit peu quand même. Et donc, à ce propos, eh bien, nous allons parler des points suivants. D'abord, la nature de l'éducation, ce que c'est que l'éducation. Ce sera la première partie. Dans une deuxième partie, nous verrons l'importance de l'éducation. Ce sera plus rapide, parce que si vous êtes ici, c'est bien que vous en êtes convaincu. Dans une troisième partie, nous verrons ce qu'on peut appeler les auteurs, les éducateurs, donc, les auteurs de l'éducation. Et ce sera donc ce seront nos trois parties d'aujourd'hui. En matière de bibliographie, il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de livres facilement accessibles sur le marché. Alors, les éditions Clovis ont publié un livre qui s'appelle « Traité d'éducation » de Jean Viollet, à l'usage des parents. Il y a sans doute quelques principes surnaturels, mais c'est un livre qui s'intéresse surtout aux aspects naturels de l'éducation. Donc à l'éducation dans l'ordre naturel. Donc c'est important, mais c'est partiel. Enfin, c'est toujours utile de le lire, c'est fait par quelqu'un qui a de l'expérience. Alors moi-même, je viens vous parler essentiellement à titre de prêtre, évidemment, parce que l'éducation, le prêtre peut en parler, surtout dans la mesure où elle concerne l'Église. Moi-même, j'ai été pendant 4 ans dans une école, donc j'ai dû faire un peu d'éducation, mais sans aucune fausse modestie, il faut dire quand même de pratiquer l'éducation à être un éducateur au sens propre, il y a une distance, et donc je ne me prétends rien du tout, mais enfin, essayons quand même de vous apporter quelque chose. Donc dans cette première partie, nature de l'éducation. Alors éducation, comme à l'habitude, nous commençons par l'étymologie, c'est-à-dire le mot lui-même, la signification des composantes du mot, educere en latin, ça veut dire faire sortir, élever, et d'ailleurs on dit bien élever un enfant. Ce mot est très significatif. Qu'est-ce qu'on élève en dehors de l'enfant? On élève une plante. On élève un bâtiment. Élever, ça veut dire faire monter. Prendre d'un point où la chose est pour lui faire franchir des ascensions successives afin de l'achever, la rendre complète. Donc elle est déjà à la base et il s'agit de la rendre complète, de la parfaire. Bien, c'est précisément ça l'éducation. Les parents font un enfant, donc ils l'engendrent, c'est à eux de l'engendrer. Et ensuite, une fois qu'il est fait, qu'il existe, qu'il est né, il s'agit de le parfaire, afin qu'il soit parfait. Et la Sainte Église enseigne que la fin du mariage, c'est non seulement la procréation, mais l'éducation. Donc non seulement faire, mais parfaire l'enfant. L'éduquer donc. On dit souvent aussi qu'il s'agit un petit peu d'une culture. D'ailleurs, il y a bien un nom, la puériculture. La culture cultivée. Cultiver, c'est ce mot que nous employons pour les choses de la terre. Eh bien, nous pouvons l'employer également pour les choses de l'éducation. Quand on cultive une plante, eh bien, c'est très intéressant de voir ce qu'on fait. On l'arrose, bien sûr, on la taille, on arrache les mauvaises herbes, on récolte les fruits. Tout ça, c'est un peu ce qu'on fait dans l'éducation. Alors si on demande eh bien, au pape Pie XI de nous dire ce qu'est l'éducation, il nous répond l'éducation consiste essentiellement dans la formation de l'homme. Voilà, formation de l'homme. Lui enseignant ce qu'il doit être et comment il doit se comporter dans cette vie terrestre pour atteindre la fin sublime en vue de laquelle il a été créé. Donc si nous reprenons un petit peu les éléments de cette définition donnée par le souverain pontife, nous voyons d'abord la formation d'un homme. Nous pourrions déjà disserter à l'envi sur ce sujet parce que vous voyez la grandeur de la tâche de l'éducation. Il n'y a rien de plus grand que de former un homme. Et je ne sais pas quel métier pourrait être comparé à celui-ci. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles bien l'Église, qui suit en cela l'ordre naturel, encourage la femme à se donner avec zèle, voire de façon exclusive, à sa tâche d'éducatrice. Parce que, eh bien, de toute façon, quoi qu'elle fasse ailleurs, comme vous le savez, hein, elle ne fera jamais rien de plus beau, de plus grand que cela. La formation de l'homme, dit Pie XI, lui enseignant ce qu'il doit être et comment il doit se comporter. Intéressant. Non seulement comment il doit se comporter, mais ce qu'il doit être. Nous sommes dans une société où on vise d'abord à faire, il faut agir. Donc il faut agir, il faut transformer. Mais quel est le but de l'action? Pourquoi est-ce que l'homme agit? Au bout du compte, c'est pour être. Il y a une belle expression dans le langage courant qui dit « L'éducation, les parents disent parfois à leur enfant, tu dois devenir quelqu'un de bien. » C'est une très belle expression, quelqu'un de bien. Même si elle n'est pas entendue dans un sens exclusivement professionnel, quelqu'un de bien, ça veut dire avec une bonne situation, qui n'a pas besoin de chercher à arrondir ses fins de mois, etc. Non, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de formé. Et c'est quelqu'un qui est bien, et non seulement qui agit bien. Si nous avions comme cela pour but se dire « il faut que je fasse de l'enfant, que je l'aide à se façonner dans l'être, et non pas seulement dans l'agir. » Je m'arrête peut-être, on n'entend pas bien. Mais on peut se passer des haut-parleurs si vous voulez. Alors, Pie XI continue pour atteindre la fin sublime en vue de laquelle il a été créé. La fin sublime. C'est ça le but ultime. Bien sûr, nous le savons. Pratiquement, spéculativement, mais est-ce que pratiquement ça guide notre éducation concrète? Est-ce que lorsque, évidemment, il ne s'agit pas en permanence pour les parents, par exemple, ou pour le prêtre, de se dire, voilà, en permanence, quelle est la fin que je veux atteindre pour faire atteindre à cet enfant? Quels sont les moyens que je veux atteindre pour cette fin? Penser explicitement à cette fin continuellement, c'est impossible. Bon, pratiquement, c'est impossible. Mais régulièrement, y repenser et ordonner les moyens à cette fin, c'est très important. Bien hiérarchiser les fins. Quelle est la fin pour laquelle on doit éduquer l'enfant? Est-ce que c'est précisément une bonne situation, un bon mariage, une bonne santé physique, la sociabilité? Tout ça sont des bonnes choses, mais en vue de quoi? L'important, c'est d'abord le ciel. Et s'il faut perdre tout cela pour le ciel, eh bien perdons-le. Je mentionne ce dernier point parce que tout récemment, je crois que c'était aujourd'hui et hier, on lisait dans les matines, donc c'est cet office que les prêtres disent, l'histoire des sept frères qui, au temps de la persécution avant notre Seigneur Jésus-Christ, quelques 100 ou 200 ans, 200 années avant notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une persécution qui a été subie par les Juifs, donnée par les païens, en Israël, et effectivement, il y a eu sept frères qui ont été mis à mort devant leur mère, et leur mère à la fin. Et le persécuteur encourageait cette mère à leur dire de sacrifier aux idoles, de renoncer à leur religion, la religion juive, à l'époque c'était celle qu'il fallait suivre, et bien de renoncer à leur religion pour pouvoir garder la vie. Et nous on voit cette mère faire des discours admirables à ses enfants en disant mais, un persécuteur, très bien, je vais le faire. Et puis elle commence à faire son discours, et puis finalement, elle dans son discours, elle engage l'enfant à être fidèle et à souffrir et à mourir pour Dieu. Et tous ses enfants meurent, et elle aussi. C'est un très très bel, très bel épisode de la Sainte Écriture. Une mère qui avait compris la fin surnaturelle de ses enfants, et qui avait compris que bien il faut tout sacrifier pour cela s'il le faut. Bien sûr, ce sacrifice n'est pas demandé de façon usuelle. Mais enfin, ce qui compte, c'est d'avoir cette fin présente à l'esprit, comme l'avait la mère de Saint Louis, vous le savez, qui disait à son fils royal, « Je préférerais te voir mort à mes pieds ou atteint de la lèpre 10 fois que de savoir que tu as fait un péché mortel. » Voilà donc ce que c'est que l'éducation. C'est la formation d'un homme en vue de sa fin ultime, et c'est la formation d'un homme. Qu'est-ce que l'homme ? C'est un esprit joint à un corps. Ce sont des facultés. C'est un esprit joint à un corps. Donc éduquer l'homme, ce sera éduquer le corps. D'où l'importance donnée aux soins physiques, à l'éducation physique de l'enfant. Nous en parlerons. Évidemment, ça ne nous prendra pas trop de temps non plus, parce que ce n'est pas le domaine où votre serviteur est le plus expert. Bon. Donc le corps. La santé, l'éducation physique, etc. Le corps, mais l'esprit également. Le monde actuel, évidemment, prête un soin extrême à la santé et à la beauté du corps. Pourquoi ? Parce que pour lui, la vie s'arrête à la mort. Le plus important, c'est de garder le plus longtemps possible sa jeunesse. Et on oublie ce qui spécifie l'homme par rapport aux animaux, c'est-à-dire l'âme rationnelle. Et on ne s'intéresse plus suffisamment à ce qui est l'éducation de l'esprit, sur le plan naturel, par la culture, par les vertus naturelles, et puis sur le plan surnaturel, par l'instruction chrétienne et la vertu chrétienne. Évidemment, il faudra donner principalement ses efforts à cette éducation de l'esprit, de l'âme. Il faudra s'intéresser au corps, à l'âme, et aussi aux facultés naturelles et surnaturelles. Facultés naturelles, l'intelligence, la volonté, la mémoire, etc. Facultés surnaturelles, c'est-à-dire les vertus surnaturelles. Morale et théologale. Donc il va falloir s'intéresser à tout cela. Alors d'abord, il faut connaître ses facultés. L'éducation de l'enfant doit passer par une connaissance de ce que c'est que l'homme. Et donc il n'est pas vain de faire des études sur la psychologie humaine, par exemple. Ce n'est pas sans utilité de savoir le rapport entre, par exemple, l'intelligence et l'imagination dans l'enfant. Ça aide. Et puis, avoir effectivement aussi une grande connaissance de l'ordre surnaturel, de l'organisme surnaturel de l'enfant. Il s'agit pour les parents, par exemple, d'éduquer aux vertus chrétiennes. Mais il faut connaître les vertus chrétiennes. Pour cela, connaître la foi, l'espérance, la charité, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la différence entre celles-là ? Qu'est-ce que la justice surnaturelle ? Qu'est-ce que la tempérance surnaturelle ? Ce sont des choses qui nécessitent une certaine connaissance. Connaissance qui, jadis évidemment, n'était pas nécessaire autant que maintenant, parce que jadis nous vivions dans un ordre surnaturel et chrétien qui faisait qu'il y avait tout un tas de connaissances qui, si elles n'étaient pas explicites chez les parents, en fait étaient implicites. Parce qu'il y avait le bon sens, parce qu'il y avait une vie naturelle. On savait très bien quelle est la différence entre l'intelligence et la volonté, même sans savoir dire nécessairement ce que c'est que l'intelligence et la volonté. Mais hélas, nous vivons dans une société où l'ordre surnaturel se décompose, l'ordre naturel également, et alors, plus que par le passé, il nous est nécessaire d'avoir ces connaissances. Donc l'étude n'est pas facultative, de surcroît, non. Je me rappelle quand nous étions à l'école Saint-Joseph des Carmes, un soir nous avons eu la visite d'un supérieur, et puis nous étions à la communauté de prêtres, et puis ce supérieur nous dit, il parlait de l'éventualité de former les prêtres qui ensuite vont dans les écoles. On les formait à la sortie du séminaire pour aller dans les écoles. Donc, faire une formation explicite avec un enseignement, des cours, etc. Alors, objection de l'un des membres de la communauté. Oui, mais de toute façon, l'important, c'est la formation sur le tas, par la pratique. Et c'est vrai que c'est très important. Il y a un adage, il y a quelqu'un qui disait une fois... Lorsque je me suis marié, j'avais 6 principes d'éducation et aucun enfant. Au bout de quelques années, j'avais 6 enfants et aucun principe d'éducation. C'est un peu exagéré, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Effectivement, la pratique est très importante. Mais il n'empêche que, et le supérieur a rétorqué, oui, mais la pratique n'empêche pas la formation théorique. Par exemple, la psychologie de l'enfant, des différentes étapes de la vie de l'enfant, c'est important aussi. Donc, les deux ne s'excluent pas. Et c'est pareil pour les parents, évidemment. Faculté naturelle et surnaturelle, et donc il faut avoir une connaissance des deux et puis veiller à cette double éducation. Il s'agit de veiller au développement naturel, nous y reviendrons, et au développement surnaturel de l'enfant, les deux. On ne peut pas négliger l'un ou l'autre. Négliger le développement surnaturel, ce sera faire du naturalisme, c'est-à-dire essayer de faire de son enfant un homme purement et simplement. Donc on pensera surtout à l'éducation de la volonté, à l'éducation de l'intelligence, à l'instruction, à la culture, etc. Et on va oublier ce qui est l'essentiel. Oublier le développement naturel, ça sera donner tellement d'importance à la formation surnaturelle par les sacrements, par l'instruction chrétienne, etc., qu'on en viendra à oublier certains principes de bon sens d'une vie naturellement ordonnée. Et c'est aussi un petit travers, petit ou gros, selon les cas. C'est l'homme, donc il s'agit de former l'homme, mais l'homme concret. Ça veut dire l'homme déchu et racheté. Déchu parce que depuis le péché originel, eh bien, l'homme est blessé. Même si, ce qui est le cas de tous les enfants pratiquement dont nous avons à nous occuper, il est baptisé, eh bien, il reste en lui des traces. Ceci est fondamental, chers amis, on y reviendra plusieurs fois, à plusieurs occasions. C'est très important de savoir que l'enfant est blessé. C'est-à-dire que même après le baptême, il reste en lui, à côté des inclinations naturelles vers le bien, fondamentales, qui viennent de la nature, des inclinations déficientes vers le mal, qui peuvent se constater facilement. Une petite expérience à faire, c'est vous laissez votre enfant un après-midi, par exemple dans le garde-à-manger, enfin dans la salle où il y a le garde-à-manger, et où traînent dans les placards ouverts une multitude de boîtes de chocolat Lindt, de toutes sortes. Il est bien évident que pour l'enfant, à moins d'avoir un enfant très vertueux, si en plus la mère ne contrôle pas, il est bien possible que l'enfant, au moins, sente en lui, même s'il y résiste, sente en lui une forte inclination à manger du chocolat jusqu'à plus pouvoir. Ce qui l'arrêtera peut-être, c'est la peur de la maladie ou le dégoût. Et nous savons tous qu'en nous, il y a ces tendances désordonnées vers le mal. Non pas que ce soit les seules tendances, mais il y a ces tendances désordonnées. Il faut les connaître pour ne pas tomber dans l'éducation rousseauiste qui veut que l'enfant soit bon, essentiellement bon et rien que bon, et l'éducation n'a qu'à épanouir l'enfant. Oui, l'éducation doit épanouir l'enfant. C'est vrai. Mais cet épanouissement de l'enfant ne peut pas se faire sans connaître les obstacles à cet épanouissement, qui sont les blessures du péché originel. Je me rappelle, dans le passé, j'avais suivi un stage BAFA, c'était un stage de formation d'animateur de camp de vacances. Et alors c'était assez particulier parce que la structure du stage faisait qu'il y avait un instructeur qui était un confrère, j'étais séminariste à l'époque, un instructeur qui était un confrère prêtre, et une instructrice qui était membre d'un groupe de formation aux animateurs et qui était en fait issue de l'éducation nationale avec tous les principes de l'éducation nationale. Et alors nous avions les instructions des deux en fait. Bon, c'était comme ça, on ne pouvait pas faire le stage autrement. Et alors c'était très amusant de voir la version de l'éducation qui était donnée dans les deux cas. Elle était complètement différente. Mais alors, pas grand-chose à voir. C'était intéressant dans les deux cas. Mais dans un premier cas, on avait l'impression que on était quand même assez à côté de la réalité. Elle invitait, par exemple, c'est assez caricatural, mais elle invitait à ne jamais réprimer l'enfant, jamais corriger l'enfant. C'est sûr que l'éducation ne peut pas se résumer à corriger un enfant. Une éducation comme ça, ça serait un échec. Mais une éducation qui ne veut pas corriger un enfant, c'est comme une plante à laquelle on ne met pas de tuteur. À Écône, nous avons des ceps de vigne, nous avons des pommiers, ils ont des tuteurs. Et c'est les tuteurs qui leur donnent de pousser droit, qui leur donnent leur force. Je ne suis pas d'expert, j'ai l'impression parfois qu'il y a plusieurs tuteurs même. Ces pommiers qui ressemblent à des équerres ou à des, avec des angles absolument droits. Mais heureusement qu'il y a ces tuteurs. Mais le tuteur parfois corrige la pousse. Le parent doit corriger. Et alors à côté de ça, nous avions évidemment les autres instructions qui nous étaient données en, dans l'esprit de Saint Jean Bosco, donc ce n'était pas tout à fait la même chose. Donc c'est l'homme déchu, mais c'est l'homme aussi racheté. Nous ne devons pas non plus voir notre enfant simplement que comme un être à corriger. C'est nier ce qu'il y a en lui de bon. La nature, en elle-même, est bonne. Elle est essentiellement bonne et accidentellement blessée par les restes du péché originel. Mais elle est essentiellement bonne. Et la grâce, nous devons miser sur la grâce, miser sur la nature, miser sur les bons atouts qu'il y a dans l'enfant. Il faut donc prendre l'homme en son entier, et l'homme non pas abstrait, mais individuel. Les parents savent bien, on ne s'adresse pas à tous ses enfants de la même façon. Il faut s'adapter à chaque enfant. Nous verrons, nous reviendrons sur cette nécessité de connaître l'enfant. Il est impossible d'éduquer l'enfant si on ne connaît pas. Et il est impossible de connaître son enfant si on n'est pas présent à la maison. Et si on ne s'intéresse pas à l'enfant. Il faut s'intéresser à l'enfant. Une personne dans le Valais me disait récemment que dans une école du Valais, je ne sais pas si ça doit être une école, en France c'est ce qu'on appelle le collège, bon, ça correspond à l'âge de 13 environ. Pour un professeur, s'est aperçu que les élèves étaient indifférents à ce qu'elle enseignait. Pas totalement, mais globalement indifférents. Alors elle s'est dit, tiens, je vais leur demander pourquoi ils sont indifférents. Donc elle leur a fait faire un devoir. Le sujet, c'était « Pourquoi êtes-vous indifférents ?» Et donc les copies, une fois corrigées, le professeur a dit que 3/4 des copies disaient la chose suivante, c'était très simple, « Nous sommes indifférents parce que nos parents sont indifférents à nous. » Nous sommes indifférents. Nous n'avons plus de goût pour les choses parce que les parents n'ont pas de goût pour nous. Nous ne sommes pas présents aux choses. Pourquoi ? Parce que les parents ne sont pas présents à nous. Pie XII nous dit « Étudiez l'enfant dans son jeune âge. Si vous le connaissez bien, vous l'éduquerez bien. Vous ne prendrez pas sa nature à rebours, de travers. Vous saurez le comprendre, ne pas céder mal à propos. » Le but de l'éducation, toujours dans la nature de l'éducation, c'est de former l'homme en vue d'une fin. Cette fin a deux aspects. C'est une fin naturelle et une fin surnaturelle. Et c'est une fin aussi individuelle et une fin sociale. Alors c'est d'abord une fin à la fois naturelle et surnaturelle. Je reviens sur ce point dont on parlait tout à l'heure, il s'agit de viser à la fin naturelle, à former un homme et aussi un chrétien. Une petite chose à ce propos, quelle est la hiérarchie entre les deux ? Est-ce qu'il faut former d'abord un homme ou est-ce qu'il faut former d'abord un chrétien ? Eh bien, les deux sont vrais, mais pas sous le même rapport. Il faut former d'abord un chrétien dans l'ordre de ce qu'on appelle en philosophie la finalité, c'est-à-dire que si nous faisons un homme, c'est en vue d'en faire un chrétien. Le but ultime, c'est de faire un chrétien. Donc, il faut d'abord faire un chrétien, dans le sens où tout ce que nous devrons faire en matière d'éducation pour aider l'enfant à s'achever devra être, au bout du compte, en vue de la fin du ciel. C'est-à-dire sur terre de la sainteté. C'est dans ce sens-là qu'il faut d'abord faire un chrétien. Ensuite, sous un certain rapport, il faut d'abord faire un homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'abord, sous un certain rapport, c'est moins vrai qu'il faut faire d'abord un homme avant un chrétien plutôt qu'il faut faire d'abord un chrétien avant qu'un homme. Mais c'est vrai dans un certain sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se fonde sur le fait que la grâce suppose la nature. Concrètement, de toute façon, la grâce suppose la nature. Dès que votre enfant est un enfant, c'est-à-dire qu'il a la nature humaine, ce que tout enfant a, il est capable d'avoir la grâce. Pour avoir la grâce, pour avoir les vertus surnaturelles, il n'est pas nécessaire d'être un surhomme. Il suffit d'avoir la nature humaine. Donc dans ce sens-là, la grâce suppose la nature. Bon, il suffit de faire l'enfant pour qu'il ait ce qu'il faut. Enfin, qu'il est baptisé, ça y est, il a la grâce. Maintenant, il est vrai aussi que le maintien de la vie surnaturelle qui lui est donnée au baptême et son accroissement, en vue de sa sainteté, ne pourront se réaliser parfaitement que si il y a certaines vertus naturelles qui sont assises en lui. Donc, il faudra d'abord faire un homme dans ce sens restreint et relatif, hein, c'est important de le voir, dans ce sens que, afin d'en faire un bon chrétien, dans l'ordre de la cause matérielle, comme on dirait en philosophie, eh bien, la bonne disposition, ça sera un homme vertueux sur le plan naturel. Un petit exemple. Pour que, aujourd'hui, dans notre monde, un jeune homme garde la pureté, une jeune fille, peu importe, pour qu'un adolescent garde la pureté, ce n'est pas facile. Alors évidemment, lorsqu'il reçoit la grâce au baptême ou dans la confession, la grâce qui lui est donnée lui donne tout ce qu'il faut, tout ce qui est suffisant et nécessaire avec les vertus pour garder la pureté désormais et pour ne pas la perdre. Mais il n'en est pas moins vrai que si les parents lui ont donné une forte volonté par l'exercice, par exemple, de l'effort, de choses difficiles de temps en temps, de façon prudente, mesurée, mais quand même de choses difficiles, par un certain renoncement, même naturel, savoir ne pas se satisfaire dans tout ce qu'on veut, hein, eh bien, il n'en est pas moins vrai que sa volonté va être plus forte. Et donc, même si les vertus surnaturelles qu'il a lui rendent le fait de garder la pureté et l'état de grâce possible, ces vertus naturelles qu'il a en plus, cette forte volonté, vont lui rendre cela facile. La vertu surnaturelle rend possible, la vertu naturelle va rendre facile. Et c'est très important que ça soit facile. Parce que quand c'est facile, c'est plus possible. Donc, voyez cette importance des vertus naturelles. Donc, sous un certain rapport, c'est d'abord la nature, mais sous ce rapport que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vertu surnaturelle qui dure longtemps et qui progresse vraiment sans que la nature progresse elle-même. Donc il faut faire attention à la nature. Et enfin, toujours pour cette première partie, eh bien, c'est un homme individuel et un homme social qu'il s'agit de former. Un homme individuel, c'est ce qu'un petit peu qu'on a dit jusqu'ici, cet homme-là, cet enfant-là, mais aussi un enfant qui est appelé à faire partie d'une société. Déjà la société familiale, qui est une société naturelle. Plus c'est une famille chrétienne, c'est une société chrétienne. La société civile, la nation, pour ainsi dire, dans laquelle il est. La société surnaturelle, immédiatement la communauté du prieuré, et puis finalement l'Église. L'enfant ne peut être un homme parfait et un chrétien parfait que s'il est parfait sur le plan individuel, mais aussi en tant que membre de la société. Et on y reviendra au cours des entretiens suivants. Il n'est pas possible de former un bon individu sans former un bon membre d'un groupe. Vous voyez tout de suite les applications, elles sont multiples. L'enfant, il faut le mêler à d'autres enfants pour qu'il arrive à être bien élevé. Si c'est un enfant qui fait partie d'une famille nombreuse, c'est tout trouvé. S'il est fils unique, ce sont des choses qui arrivent, eh bien, il faudra aussi le mettre au contact d'autres enfants pour que petit à petit il progresse. Comme disait un ermite, qui disait un jour dans un entretien, on n'accordait jamais à des gens, jadis, et je crois que c'est toujours un peu la règle, de devenir ermite sans avoir été moine avant, sans avoir vécu en communauté. dernier point sur cette question de la nature, l'éducation. Comprenons bien ce que Pie XI nous disait en nous disant la fin ultime. Cette fin ultime, ce n'est pas seulement une sorte de perfection, d'abstraction, de complexe de vertus, d'assemblage, un peu comme on construit une maison ou un jeu de Lego. L'enfant à construire, c'est pas une sorte de savante composition d'éléments juste tous à leur place. Ce qui fait l'unité, c'est évidemment que c'est une personne, c'est un être, mais ce qui doit faire l'unité, surtout, c'est la fin ultime, cette fin ultime conçue comme Dieu. La fin ultime qu'il s'agit de présenter à l'enfant et à laquelle régulièrement les parents doivent faire référence dans l'éducation de leur enfant, lui rappeler qu'il est fait pour ça, bien lui faire concevoir non pas comme une sorte d'endroit où il aura tout ce qu'il faut, il fait bien chaud, où il manquera de rien, où il sera vraiment heureux, où on sera bien, on mourra jamais, on pleurera pas, bref, une bonne maison. Parce que là, on donne à l'enfant une vue intéressée et peu motivante, et finalement fausse, dans le sens où elle est trop incomplète. L'éducation, finalement, c'est de faire mener l'homme à Dieu. La fin ultime, c'est une personne, c'est même trois personnes, la Sainte Trinité. Et sans cesse, le souci des parents fera bon de se porter sur le fait que la vie de cet enfant, la vraie vie qui est une vie intérieure, doit finalement aboutir à une relation surnaturelle, personnelle, avec la très sainte Trinité, cette relation qui se fait par les vertus théologales. Et la vie de prière, la vie sacramentelle. C'est très important de voir ça. Si, dès le départ, dans l'éducation, l'enfant est placé dans cette atmosphère vraiment chrétienne de recherche de la connaissance du bon Dieu et de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, et que ça finalise l'éducation, parce que ça finalise sa vie, alors ça doit avoir une répercussion sur sa vie entière. Deuxième partie, la plus rapide, l'importance de l'éducation. L'éducation est d'une souveraine importance. Comment ne le savons-nous ? Eh bien d'abord par ce qu'elle est. Pour savoir si une chose importe, il faut savoir ce qu'elle est. Nous avons vu ce qu'elle était. Formation de l'homme et du chrétien en vue de la sainteté sur la terre et du ciel. Eh bien, il n'y a rien de plus important. C'est une souveraine importance. Également, pensons que l'enfant, c'est l'espérance, l'espoir, comme dit Pie XII. Il faut que cette espérance, dit le souverain pontife, ne trompe pas. Radio Message, dans un congrès d'éducation catholique. Et pour qu'elle ne se trompe pas, il faut l'éduquer et bien l'éduquer. Et il dit, c'est Grégoire XVI qui dit, « On ne peut procurer, non seulement à la société chrétienne, mais plus encore à la société civile, de meilleurs et de plus grands bienfaits que de former de bonne heure la jeunesse à la piété et à toute vertu. » Souveraine importance pour l'être lui-même, c'est ce qu'on a vu, pour sa perfection. Souveraine importance pour la famille chrétienne. Une seule idée suffira. Rappelons-nous que les familles de demain se préparent dans les enfants d'aujourd'hui. Il est clair que plus une famille est de, pardonnez-moi l'expression, de qualité, plus elle donnera des familles de qualité. Les bonnes familles se préparent dans les bonnes familles, de façon générale évidemment. Pensons à l'avenir. C'est d'ailleurs ce que nous observons à l'expérience dans nos écoles par exemple. Également, souveraine importance de l'éducation pour l'avenir de la société civile. Pour notre Suisse. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas parce que, petit à petit, le tissu social de nos sociétés s'affaiblit. Certains disent disparaissent, on n'en est peut-être pas là, mais s'affaiblit. Les sociétés ont tendance à désintégrer en une poussière d'individus. Que pour autant, et que ces pauvres jeunes que nous voyons autour de nous ont si peu reçu, que pour autant il faut baisser les bras. Pensons que la relève, elle se prépare dans nos familles, maintenant. quand on regarde, par exemple, enfin bon, je parle pour la France, des moments très difficiles pour notre pays, comme l'a été la guerre de Verdun, la bataille de Verdun, eh bien, cette bataille de Verdun a vu des héroïsmes absolument extraordinaires. On ne peut pas imaginer ce qu'ils ont souffert, ces hommes-là. D'ailleurs, du côté allemand, c'est la même chose. Eh bien, ces hommes, ont-ils été préparés à cela? Dans les familles. Dans les familles. Dès l'éducation. Évidemment, il y avait des circonstances favorables, une vie déjà assez rude, naturellement, mais il n'en reste pas moins qu'ils ont été préparés dans les familles. Et heureusement qu'ils ont tenu. Et l'éducation est d'une souveraine importance pour l'Église. Là aussi, une seule idée. Les saints se sont faits dans les familles, à peu de choses près. La sainteté, elle éclot d'abord dans la famille. D'une bonne mère de famille chrétienne, un bon père de famille chrétienne. Les saints, ça se prépare. On pourrait ajouter, on voit très clairement les fruits de l'éducation dans les séminaires. Et donc dans le sacerdoce. Dernière partie, les auteurs de l'éducation, les éducateurs, qui sont-ils? Alors, on a coutume de voir dans les éducateurs d'abord des sociétés. Ce sont des sociétés qui éduquent. Évidemment, immédiatement, ce sont des hommes dans ces sociétés. Mais les enseignements pontificaux sont clairs sur ce point. C'est la famille et l'Église qui éduquent. La famille d'abord. C'est à la famille d'éduquer et c'est elle de droit naturel que revient l'éducation sur le plan naturel. Pourquoi? C'est très simple, comme c'est elle qui donne la vie, il est naturel que c'est elle qui fournisse ensuite ce qui est nécessaire pour grandir. Celui qui donne à l'être, il convient que ce soit le même qui achève. Et donc, il est clair que c'est dans la famille que l'enfant est le mieux placé pour arriver jusqu'à l'âge adulte. Bien que, dans certains cas, la famille puisse déléguer cette tâche à d'autres. C'est le cas, par exemple, lorsque vous confiez vos enfants à une école. Lorsque vous confiez vos enfants à une école, par exemple, même pour la journée, sans parler de la pension, pour la journée, que se passe-t-il? Vos enfants ne sont plus avec vous, ils sont dans l'école. Eh bien, vous confiez au maître ou au prêtre l'éducation sur le plan naturel de vos enfants. Et donc, s'ils le font, c'est en vertu de votre délégation. Je parle de l'éducation sur le plan naturel, l'éducation aux vertus naturelles, ou à l'instruction naturelle. Donc, la famille a, de par l'ordre naturel, le devoir et le droit d'éduquer sur le plan naturel. Sur le plan surnaturel, eh bien, de la même façon, c'est celle qui donne la vie surnaturelle qui va avoir pour mission de l'achever, de la parfaire, c'est-à-dire l'Église. De même que la famille donne à l'enfant le fait de naître, de même l'Église donne à l'enfant le fait de naître par le baptême à la vie surnaturelle, et donc c'est elle qui va devoir s'occuper de lui sur le plan surnaturel pour lui donner cette instruction, cette vertu surnaturelle qui est nécessaire au bon chrétien et finalement à l'élu. Donc l'Église a un devoir et donc un droit sur le plan surnaturel, qui est exclusif. Et là encore, si d'autres que l'Église, d'autres que le prêtre, donc concrètement, éduquent sur le plan surnaturel, ce sera par délégation de l'Église. Et donc, par exemple, lorsque une mère fait faire une prière à ses enfants, c'est par délégation de l'Église. Elle le fait mandater. Elle le fait mandater. Évidemment, concrètement, surtout dans le plus jeune âge, eh bien, l'éducation surnaturelle va se faire très souvent par cette délégation, par cette mandature. Parce qu'il convient que les mêmes qui éduquent sur le plan surnaturel éduquent aussi concrètement sur le plan surnaturel. L'éducation naturelle lorsqu'elle s'exerce par l'Église, surnaturelle lorsqu'elle s'exerce par l'Église, eh bien, s'appelle catéchisme, s'appelle sacrement, s'appelle prière, s'appelle école catholique, etc. L'État alors? Eh bien, l'État n'a pas de droit direct à l'éducation de vos enfants, ni sur plan naturel, ni sur plan surnaturel. C'est facile à voir. Il ne les fait pas naître ni sur un plan, ni sur l'autre. Oui. L'État ne fait pas naître les enfants, c'est clair. Ni dans l'ordre naturel, ni dans l'ordre surnaturel. Donc il n'a aucun droit direct sur l'éducation des enfants. Et donc sur l'instruction. Donc sur l'instruction. C'est une chose qui est importante de bien noter, surtout dans certains pays où l'éducation dite nationale a tendance à être absolument omniprésente. C'est un abus. L'État a un certain droit sur l'éducation. Ce droit, il est par exemple de régulation, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de veiller à ce que les familles et l'Église remplissent leurs tâches de façon conforme à l'ordre public de la société. Bon, c'est par exemple, c'est ainsi qu'il interviendra pour empêcher par exemple des parents qui ne s'occupent pas du tout de leurs enfants de continuer à faire de sorte, voyez. Ou alors c'est lui qui interviendra dans les écoles catholiques pour imposer certains programmes d'éducation civique. Il a le droit de le faire. C'est lui qui interviendra au niveau des examens dans des écoles absolument privées, voilà, pour imposer un... Bon. Donc il a un certain droit de régulation. Il a aussi un certain droit de suppléance. Par exemple, si les écoles déjà existantes ne suffisent pas, eh bien l'État peut se charger de faire des écoles supplémentaires. Ou alors si des écoles manquent pour certains enfants qui sont handicapés ou qui sont des orphelins, l'Église ne le fait pas suffisamment parce qu'elle n'en a pas les moyens, que sais-je, bien l'État pourra le faire. C'est un rôle de suppléance. Mais il ne faut pas que le rôle de suppléance devienne le plus grand, plus important et plus prépondérant par rapport au rôle de la famille et de l'éducation et de l'Église. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc l'éducation nationale, par exemple, est-ce que c'est une absurdité ? Telle qu'elle est, oui. Des écoles nationales en soi, ça n'est pas interdit, mais qu'elles deviennent la norme et autre chose qu'une suppléance, ça c'est un abus. Évidemment qu'elles soient laïques, c'est encore plus un abus. Mais ça c'est un autre problème. Alors prenons ces auteurs de l'éducation, ces éducateurs, intéressons-nous évidemment surtout aux parents, parce que évidemment c'est ce qui vous intéresse. Les parents éducateurs. Alors, qui sont éducateurs ? Les deux parents. Évidemment, c'est la société qui éduque, c'est la famille. Or, ceux qui ont fait cette famille, c'est le père et la mère, par le sacrement de mariage. Donc, c'est eux qui vont éduquer. Les deux. Ni le père seul, évidemment, ni la mère seule. Prenons d'ailleurs une belle analogie, qui n'est pas de moi, donc je peux dire qu'elle est belle. La Sainte Trinité, dans la Sainte Trinité, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, du Père et du Fils. Non du Père seulement, non du Fils seulement, mais du Père et du Fils. Et de la même façon, l'enfant est éduqué par le Père et la Mère. Évidemment, si l'un fait défaut, par suite d'un décès ou d'une séparation, que sais-je, ce qui peut arriver, hélas, eh bien, la Mère ou le Père, celui qui reste, devra suppléer. Il le fera, la grâce lui sera donnée. La grâce lui sera donnée parce que le bon Dieu pourvoit à tous les besoins en fonction de ce qu'il prévoit par sa providence, donc il pourvoit à tous ses besoins. La grâce lui sera donnée et la personne devra essayer de faire de son mieux. Évidemment, ça sera toujours quelque chose qui fera défaut, mais enfin, il faut faire comme les choses sont. Alors, parlons d'abord de la mère. Alors, la mère occupe un rang très spécial dans la hiérarchie des éducateurs. On ne peut pas dire qu'elle est la première éducatrice, ni la deuxième au sens propre. Surtout, ce qui importe de voir, c'est que c'est la première, comment dire, exécutrice de l'éducation. Par ce mot, il ne s'agit pas de dire qu'elle n'a qu'à exécuter une éducation qui serait conçue par un autre qu'elle. Mais ce qu'on veut dire, c'est que du fait qu'elle est appelée à rester à la maison et à être le plus souvent occupée de son enfant, le plus souvent au contact de son enfant, c'est évidemment elle qui, concrètement, va devoir intervenir le plus souvent sur l'enfant. C'est l'ordre naturel qui le veut. C'est Pie XII qui le dit d'ailleurs. Nous voyons dans les mères de famille les premières et les plus intimes éducatrices des âmes des petits-enfants à élever dans la piété et dans la vertu. Encore une fois, les raisons. Première raison, eh bien, elle vit davantage avec les enfants. Deuxième raison, ce qu'est la femme, c'est-à-dire sa psychologie propre. elle est plus sensible, normalement, plus intuitive, et donc assez souvent, elle a une meilleure connaissance de l'enfant, une meilleure psychologie, puis pour d'autres raisons, parce que c'est elle qui l'a enfanté, évidemment. Et donc, ces qualités la rendent généralement plus apte à deviner la forme à donner à ce qu'il faut dire ou à ce qu'il faut faire avec ses enfants. Autre raison qui fait qu'elle a ce rôle particulier, je vais avoir des ennuis, mais c'est pas grave, elle a une plus grande capacité d'affection et de dévouement par nature, par rapport à l'enfant. Bon, tout à l'heure, je rattraperai les choses, hein, vous en faites pas, monsieur. Elle a une plus grande capacité d'affection, bon, justement parce qu'elle est sensible, et puis parce que bon, son enfant, il est sorti d'elle-même. Elle a été un avec lui, à un moment donné. Elle est toujours un avec lui d'une certaine façon. Donc elle est plus capable de s'affectionner, et puis elle est, de façon générale, plus capable de se dévouer. C'est un péché assez commun aux hommes que l'égoïsme, il faut reconnaître. Il faut reconnaître, voilà. Ils ont leurs qualités, je viendrai tout à l'heure. Puis encore, on parle de généralité. Évidemment, il y a des exceptions. Ah, mais moi, je connais. Bon. Si on rentre dans les exceptions, on n'est pas sorti de l'auberge. Bien. Hein. Par exemple, la dernière fois, j'étais chez les amis, et puis la mère de famille me faisait remarquer que lorsque l'enfant criait la nuit, ce qui est vrai même après qu'il ait été sevré, donc qu'il n'a plus besoin d'être nourri, hein, lorsqu'il fait ses nuits, mais lorsqu'il criait la nuit, donc parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, la première personne à se lever, c'était une première, et non pas un premier. Il y a peut-être des exceptions. Donc, la mère a un rôle primordial dans l'éducation. C'est très très important le rôle de la mère dans l'éducation. Alors, eh bien, quelle est la conséquence? Eh bien, c'est qu'il faut qu'elle sache qu'elle est, d'une certaine façon, irremplaçable. Alors, mesdames, voici la suite. Pie XII, donc, vous engage à ne pas mener une vie indépendante et à ne pas travailler. Il décrit la situation dans laquelle les parents, le père et la mère, mènent une vie assez indépendante l'un à l'égard de l'autre. Ils travaillent donc. Pendant ce temps, les enfants que Dieu leur envoie, comment sont-ils surveillés, gardés, éduqués, instruits? Vous les voyez, nous ne dirons pas abandonnés, mais bien souvent confiés dès le début à des mains étrangères, formés et guidés plus par d'autres que par leur mère, retenus loin d'eux par l'exercice de sa profession. Pie XII continue. Faut-il s'étonner si le sens de la hiérarchie familiale s'affaiblit et finit par se perdre? Si l'autorité du père et la vigilance de la mère n'arrivent point à rendre joyeuse et aimée la vie familiale? À la femme, Dieu a réservé la première éducation des enfants pour qui les meilleurs soins de personnes étrangères ne vaudront jamais les affectueuses sollicitudes de l'amour maternel. Bon, on reviendra sur cette question, évidemment, dans ses instructions ou par d'autres prêtres, d'autres confrères, peu importe. Bien sûr, il y a certains cas, on n'est pas sans le savoir, et puis tous le remarquent aussi, où il n'y a pas d'autre solution pour la mère que d'avoir des activités à l'extérieur qui limitent, eh bien, la capacité d'éducation sur l'enfant. Mais il n'en est pas moins vrai que si ces choses sont nécessaires, eh bien, il faut qu'elles demeurent rares, autant qu'on le peut, et comment dire, et on doit essayer de faire en possible le plus possible pour que ça ne soit pas le cas. D'ailleurs, un père de famille valaisan me disait qu'il avait fait une fois le calcul avec son épouse financièrement, la situation de la famille, financièrement, si la femme allait travailler ou si elle n'allait pas travailler. Parce qu'il avait tendance à dire qu'il valait mieux qu'elle aille travailler vu les charges qui allaient tomber sur eux. Et tout compte fait, en comptant les impôts, etc., eh bien, il valait mieux qu'elle ne travaille pas, sur le plan financier. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas la même chose, évidemment. Si la femme est PDG d'entreprise, c'est pas tout à fait la même situation. Hein. Bon, j'espère que c'est pas trop fréquent ces choses-là, mais enfin. Mais vous voyez, donc attention à ces calculs-là. Bon, enfin, on reviendra, c'est pas l'objet de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Enfin, ce qui compte, c'est que la mère se rende compte de son devoir d'éducation. Et qu'elle ne fasse pas passer l'éducation après d'autres centres d'intérêt. Même des centres d'intérêt louables. même si, par exemple, la mère est très active dans une association contre l'avortement. Alors, elle se donne complètement à cette association, elle en est la présidente, elle, etc., etc. Elle est extraordinairement efficace dans cette association d'avortement, ce qui est très louable, il faut l'en féliciter. Et à côté de ça, ses enfants, parfois, en pâtiront. Alors, où est son premier devoir ? Ce sont des choses, je sais bien, qui ne sont pas toujours faciles à entendre, mais mon devoir est de vous les dire. Le père, maintenant. Alors, c'est certainement le père, pour la majeure partie de son temps, ordinairement, quand les choses se passent bien, c'est-à-dire quand il n'est pas au chômage, est occupé par d'autres tâches que la tâche éducatrice. L'une de ses principales fonctions, comme dit Pie XII, consiste à procurer à sa femme et à ses enfants les moyens financiers indispensables à la vie. Mais il a quand même une charge d'éducation. Pourquoi ? Parce que l'éducation est à la charge de la famille et que, eh bien, la famille, elle est à sa charge en premier. Dans l'ordre naturel, comme dans l'enseignement de l'Église, malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, le père est chef de famille, est chef. C'est comme ça. Et donc, il a la charge de veiller à l'éducation de ses enfants. Puisque c'est le but de la famille. Évidemment, son intervention dans l'éducation, c'est une dominante, c'est pas exclusif, évidemment. Son intervention dans le domaine de l'éducation va être proportionnée à ce qu'il est, à ses qualités propres. On y va. L'intelligence du père est ordinairement plus ferme, plus équilibrée. Il a plus le sens du bien commun. Il voit les choses de façon en général plus objective. Et donc, il sera particulièrement qualifié pour former l'intelligence de ses enfants. Nous reviendrons à l'occasion sur l'éducation de l'intelligence. L'éducation de l'intelligence, oui. L'éducation du jugement, très important. Par exemple, l'éducation de l'objectivité, l'esprit. Voilà. Le père a l'éducation à la fermeté de l'esprit. L'éducation au raisonnement, à la qualité du raisonnement. On reviendra sur ces choses-là, si Dieu veut. Également, la volonté du père, normalement, est forte, décidée, parce que il est appelé souvent à juger dans le domaine professionnel, à exécuter. Donc, de façon générale, évidemment, hein, même si maintenant on voit de tout, il peut apporter dans l'éducation la force, l'énergie, la constance de la volonté qui est nécessaire à ses fils et à ses filles, en particulier à ses garçons. Je crois qu'il n'y a pas besoin de vous faire de dessin pour vous convaincre de l'importance d'éduquer à la volonté et à la virilité les garçons aujourd'hui. C'est capital. Pour qu'ils restent des hommes. Évidemment, il ne s'agit pas d'en faire des spartiates. C'est clair. Et cette force devra être modérée par la douceur. C'est une force qui se possède, une force de bonté, évidemment. Nous ne sommes pas Nous ne sommes pas des stoïciens, nous sommes des chrétiens, c'est une force chrétienne. Regardez la mère des 7 enfants, une belle éducation réussie, 7 frères Maccabées. Quelle force! Supporter la mort pour la loi de Dieu. Belle réussite. Le père, la mère, donc éducateur, mais le père et la mère, d'où l'harmonie. L'importance de l'harmonie entre les parents. Il faut qu'il y ait un éducateur, que les parents, en quelque sorte, fassent un. Si vous mettez plusieurs tuteurs à une plante, eh bien, elle va pousser dans tous les sens. Les tuteurs ne sont pas coordonnés. Et d'ailleurs, le mariage a pour but la vie commune. Il faut une harmonie, non seulement pour le couple, pour la qualité de la vie commune, mais pour l'éducation, il faut un accord entre les parents. Cet accord va être en particulier important, bien sûr, pour que l'éducation soit une, bon, pour que l'enfant sache où il va, mais aussi pour le bon exemple. Je voudrais insister sur ce point. Souvent, surtout quand on a passé une journée fatigante, la mère s'est occupée de tout plein de choses, les courses, les enfants, le ceci, le, amener les enfants au piano, etc., etc., que sais-je. Donc elle est fatiguée. Le père est fatigué, s'il a travaillé, tout le monde est fatigué. Les enfants sont fatigués aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout d'un coup, il y a un problème. Bon. Et alors, les parents se disputent. Voilà. Les parents se disputent sur l'éducation des enfants, même parfois. Donc, le père dit « Fais ceci », plutôt la mère dit « Fais ceci », et le père « Mais non, tu n'y entends rien, je lui ai déjà demandé quelque chose d'autre, c'est n'importe quoi, etc., tu t'y connais pas, laisse-moi faire. » Aïe, ça commence. Alors, dans certaines familles, ça arrive rarement. Dans d'autres familles, ça arrive moins rarement. Alors, eh bien, on ne devine pas, chers parents, vous ne devinez pas l'influence que ça a sur vos enfants. Bien sûr. À mille titres. Déjà parce que, voyez quel est le poids de ce que vous pouvez leur dire, si ce que vous allez leur dire, l'autre, le conjoint, dit l'inverse, ou conteste. Quel est le poids que ça pour l'enfant. L'enfant a besoin de vérités claires, de principes fermes quant au bien. Si on lui met le flou dans son esprit, imaginez dans le domaine de la foi, que vous lui dites que, par exemple, un confrère dise « Jésus-Christ n'est pas ressuscité bon, ». Excusez-moi, ça c'est vraiment absurde, mais enfin bon. Et qu'un autre confrère dise « Jésus-Christ est ressuscité ». Vous voyez, pour l'enfant, dans le domaine des principes vrais de la foi, quel flou ça engendre. Si les deux confrères disent « Jésus-Christ est ressuscité », vous voyez la clarté dans la foi. C'est tout le problème de l'Église actuelle, d'ailleurs. Bon. Alors maintenant, eh bien dans les bonnes mains d'éducation, c'est la même chose. Il faut que l'enfant, les choses soient claires quant à ce qu'il doit faire, quant à ce qui est vrai, quant à ce qui est bien, et aussi quant à la confiance qu'il doit avoir dans son père et dans sa mère. S'il voit l'autorité de son père ou de sa mère, ne serait-ce que relativisée par l'autre conjoint, quel poids va-t-il leur donner? Je ne dis pas qu'il ne va plus du tout leur donner de poids, mais ça ne sera plus du tout la même chose. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je fais, moi, quoi? Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Papa ou maman? Obéir à papa ou obéir à maman? Et également, pensez qu'un jour, il sera père de famille, mère de famille, plus tard. Alors, certainement, il n'est pas nécessaire qu'il reproduise exactement ce qu'il a vu dans la famille. On voit d'ailleurs certains enfants qui disent « Je vais me marier, mais c'est sûr, avec ma femme, on se comportera pas du tout comme j'ai vu mes parents se comporter. » J'ai entendu ça. Bon, c'est pas très sympathique pour ses parents. Enfin bon. Alors, ceci dit, c'est clair que la façon avec laquelle les parents se comportent aura une certaine influence sur la façon avec laquelle les enfants se comporteront plus tard. Alors, eh bien, savoir être harmoniser l'éducation. Comme le dit Pie XII, gardez-vous de laisser transparaître le moindre signe de désunion entre vous. Il ne dit pas de trop grands signes de désunion. Le moindre signe de désunion. La moindre différence entre vous dans la façon de traiter vos enfants. Ils s'apercevraient bien vite qu'ils peuvent se servir de l'autorité de la mère contre celle du père, ou du père contre la mère. Et ils résisteraient difficilement à la tentation d'employer cette divergence à satisfaire toutes leurs fantaisies. Évidemment, s'ils sont malicieux, c'est ce qu'ils feront. J'ai encore 2 ou 3 minutes, monsieur l'abbé. Merci bien. Donc, cette harmonie entre les parents est importante de la part de la mère, de la part du père. Il faut y faire attention, évidemment. Par exemple, de la part de la mère, elle a certainement un rôle, en général, de consolatrice des affligés. Hein, de secours des chrétiens, j'allais même dire. Hein, et sans s'accommodatis irrespectueux envers la Sainte Vierge, parce qu'elle est mère, elle aussi. Donc, elle aura un rôle en particulier de consoler l'enfant lorsque ça s'est mal passé avec papa et que ça s'est très mal terminé. Mais pour autant, elle ne doit pas systématiquement relativiser les ordres du père et les réprimandes du père. Il faut qu'elle lui fasse confiance. Réciproquement, le père doit aussi comprendre le rôle spécifique de la mère, qui en général, parce que maintenant de plus en plus c'est l'inverse, mais enfin, le rôle spécifique de la mère de mettre un petit peu de baume et d'adoucissement en toute chose. Je dis de plus en plus c'est l'inverse parce qu'on voit les papas gâteaux maintenant. Il y a la pratique du papa gâteau. Papa gâteau, donc, il est tellement fatigué en retenant de l'école, du travail. Il voit ses enfants, il a pas du tout envie de les gronder parce que vraiment, il les voit rarement. Alors, si en plus, il doit s'occuper de crier, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Quand on est tout le temps dehors, on est enfin en famille, surtout quand on a des petits pioupiou qui sont tout mignons. Alors, eh bien, se mettre à crier dessus. Si la mère arrive, tu sais, il a fait ça. Alors, occupe-t'en. Alors, évidemment, si le père, il a que ce rôle-là, c'est pas facile. Alors, parfois, il y a la tendance inverse, la tendance du papa gâteau. Donc, on arrive et on se fait le petit copain des enfants. On s'amuse bien avec eux. On les excite. Ils deviennent insupportables. Et à ce moment-là, on les confie à la maman. Je suis fatigué. J'ai eu une journée accablante au bureau. Et on sort au bistrot pour aller boire un coup et se réchauffer dans l'ambiance chaude des lampes indirectes et des copains du service militaire. Donc harmonie entre les parents et harmonie entre les parents et le prêtre. Je ne parlerai pas trop du rôle éducateur du prêtre parce qu'évidemment ça vous intéresse un peu moins directement. Mais par contre de l'harmonie entre les parents et les prêtres. C'est important cette collaboration entre les parents et le prêtre. Sachez que le prêtre a un rôle important dans l'éducation des enfants, non seulement qu'il ne s'arrête pas seulement à l'instruction, etc., mais par ailleurs, le prêtre pense, ou peut penser à vos enfants, et s'intéresser à eux, et avoir à parler avec vous, d'eux, à faire des choses avec les enfants. Les enfants sont très, très marqués par... Je me permets de donner un exemple... Je me rappelle avec un enfant, un garçon, c'est Joseph, un garçon vraiment difficile, mais avec de bonnes qualités, un bon fond. Mais alors, à un moment donné, ça s'était vraiment pas mal passé, et alors, je l'avais privé de quelque chose. Et cette privation avait été pour lui difficile. Mais je pense que c'était juste. Et puis, je voyais bien que la pilule passait pas très très bien, et en plus, je savais que j'allais partir. C'était la dernière année. Alors je me suis dit, c'est dommage de finir là-dessus. Et alors, je ne me donne pas en exemple, mais c'est bon, j'ai cet exemple-là, alors je vous le donne. Je me suis dit, on va faire quelque chose ensemble. Je l'ai invité à faire du cheval. On allait faire du cheval. Donc on allait dans un club de cheval, et puis on a fait du cheval. Voilà. C'est d'ailleurs la deuxième fois que je faisais du cheval. Je prenais de grands risques en faisant du cheval. Et ça s'est bien passé, j'ai même fait du galop. Et oui, parce qu'il faisait du galop, je n'allais pas faire du trot à côté, vous voyez, c'est pas... Non. Ah, pas. Donc il faut faire du galop. On a fait du galop, et ça s'est très très bien passé. Eh bien... L'enfant, ça l'a métamorphosé, et depuis ce temps-là, si vous voulez, ça s'est très très bien passé, bon, il m'écrit de temps en temps, etc. Oui. Donc, ça lui est resté, le fait que le prêtre s'occupe de lui. Je ne vous dis pas ça vraiment, encore une fois, en me mettant en valeur, mais pour vous montrer que, bon, le prêtre pourra s'occuper, j'aurais pu donner de nombreux exemples de ce qui a pu se faire par d'autres, le père va s'occuper de vos enfants en dehors même des horaires stricts qui lui sont confiés dans les cadres de son ministère. Alors, eh bien, les parents auront intérêt donc à collaborer avec le prêtre, coopérer. La première coopération, c'est d'asseoir l'autorité du prêtre sur l'enfant. Attention à l'enfant qui, en rentrant du catéchisme, de la messe, de l'école, qui, après... un moment difficile où le prêtre a dû le punir ou le réprimander. Tu sais, monsieur l'abbé machin, papa, je préférais l'abbé Truc, qui était avant à l'école, il était bien plus sympa. Hein. Mais alors le nouveau, il me parle jamais sans me gronder, et puis ceci, et puis cela, et puis d'ailleurs, il y a un tel qui a dit ce « Ah oui, oh mon pauvre petit chéri, etc. Voilà. » Évidemment, c'est pareil vis-à-vis des maîtres et des professeurs. Je me permets de faire une petite confidence. À ma tendre enfance, j'ai vécu longtemps, de longues années en Afrique. Et je peux vous dire que là-bas, lorsque le maître d'école réprimandait un enfant, et là-bas, vous savez qu'ils ne sont pas trop rousseauistes, hein, ça y va très très vite à la main de fer. Il n'y a pas trop de gants de velours d'ailleurs, parfois. Enfin, bon. Donc, lorsque l'enfant revenait à la maison, il faisait tout pour que son père sache pas qu'il s'était fait prendre par le professeur. Parce que si son père apprenait qu'il s'était fait prendre par le professeur, l'enfant prenait le double du père. L'enfant prenait le double du père. Donc, je ne suis pas là pour dire, faut dire chers parents, lorsque le maître donne 2 heures de colle, mettez-en 4. Mais c'est pour vous dire, si vous voulez, ce sens de l'autorité. L'autorité bienfaisante, l'autorité qui n'est pas... Aujourd'hui, on voit derrière l'autorité toujours de l'autoritarisme. Non, l'autorité, c'est une bonne chose, l'autorité. Et puis, ne pas hésiter à, eh bien, consulter le prêtre. Lui dire, voilà, est-ce que dois-je faire vis-à-vis de mon enfant? Ou le prêtre vous consultera. Coopérer. C'était une des plus grandes joies que nous avions. Je me rappelle quand j'étais dans l'école, cette bonne coopération avec les parents. Il y a mille exemples. Certains parents étaient vraiment extraordinaires pour ça. On marchait la main dans la main dans une confiance totale. Totale. Voilà, je ne donnerai pas de conclusion véritable. On a vu un petit peu ce que c'est que l'éducation, son importance, et puis qui doit éduquer. La conclusion, eh bien, c'est que je vous invite donc à la prochaine instruction. Si vous avez cette patience de bien vouloir m'écouter la prochaine fois, puis je vous souhaite... Alors, il y a peut-être des questions. Des questions. N'hésitez pas, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Enfin, non, oui. J'essaierai de vous convaincre d'une autre façon. Mais je suis sûr que vous êtes tous d'accord. Très bien. Voilà, monsieur l'abbé, j'ai terminé.